Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute! Paco, tu es l'hôte du podcast Investisseur 4.0 que tu as lancé, il me semble, en 2020, c'est ça ?
C'est ça, ouais, en octobre 2020.
Ok, c'était quoi la motivation derrière ? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans le podcast et sur ce sujet-là ?
Je suis un gros consommateur de podcasts, moi, à la base. Donc, le média, j'étais très convaincu et consommé. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir créer aussi quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans le podcast, vraiment proche de la personne, et j'avais envie d'utiliser ce média-là. Après, moi, dans mon parcours, j'avais envie de... En fait, j'étais à un point où j'avais envie de construire du patrimoine. Donc ça va être vraiment proche du thème de mon podcast, hein, qui est de construire du patrimoine quand on a 40 ans, une vie famille trépidante. Et en fait, je dis ça parce que je voulais fédérer en fait, des gens autour de moi pour savoir s'il y avait des gens qui vivaient la même chose que moi. C'est-à-dire, en gros, je voulais construire du patrimoine, investir de manière à ce que, voilà, petit à petit, je puisse avoir des revenus passifs ou du moins avoir plus de temps libre pour moi. Et j'ai eu 40 ans, j'ai eu mon premier enfant et donc je me suis trouvé face à pas mal d'adversités, si tu veux, qui m'ont donné à réfléchir. Et je me suis dit, je vais un peu documenter ça. Et puis, il n'y a peut-être pas que moi qui suis dans ce cas-là et je vais peut-être pouvoir fédérer des gens autour de ça et... je vais créer un podcast où je vais inviter des gens qui vont pouvoir m'aider, moi, et partager avec les gens. Donc, c'était vraiment au tout début dans un objectif de un peu comme le blogging, finalement, de documenter un peu un parcours pour m'aider, moi, à me développer. Quoi.
Mais c'est vraiment parce que je trouve que c'est un excellent moyen que de se dire je lance un podcast à la fois pour apprendre, pour transmettre et puis pour rassembler. Tu vois, je trouve que c'est l'essence même du format audio, donc c'est beau que tu y aies pensé dès le début.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est un peu aussi parce que par rapport à l'expérience que j'avais en tant qu'auditeur de podcast, et je me sentais vraiment proche et de la personne qui a fait le podcast. Et je pense que du coup, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir avoir le même impact avec des gens peut-être qui... Tu vois, c'est même relation entre le créateur et l'auditeur, quoi, sur le format podcast, en fait.
Ouais. Est-ce que immédiatement tu l'as vu comme une possible reconversion et comme le fait de te lancer professionnellement avec ce format-là et développer d'autres choses à côté, ou au début c'était vraiment juste dans le partage, quoi, et dans le fait de rassembler ?
Il y avait un peu des deux. Je pense que en fait j'ai vu tout de suite ça comme un truc que j'allais faire de façon pro, enfin le plus pro possible en tout cas. Mais j'ai pas forcément vu le côté monétisation tout de suite. Je m'étais dit, je vais faire un truc de qualité. Et je vais faire, voilà. Donc, je me suis formé pour vraiment délivrer, en fait, dès les premiers épisodes, enfin, le meilleur de la qualité que je pouvais, en tout cas, dans l'organisation aussi, dans le choix des invités. Mais il n'y avait pas forcément ce côté monétisation, effectivement. C'était plus de se dire comment, en fait, je vais créer quelque chose qui va durer dans le temps. J'ai, tu vois, sur le titre des podcasts, quand j'ai commencé, c'était pas 1, c'était numéro 001, tu vois.
Ouais.
Et en fait, les gens me demandaient, mais pourquoi tu mets 01, 001, 003, 00? Je leur disais, bah, c'est parce qu'en fait, je veux un petit peu passer le message finalement que je suis pas là pour faire 3 épisodes et me barrer, tu vois.
Ouais.
Et en fait, en me disant ça, c'est que je vais au moins, c'était un peu un signal, un peu un signe faible, dire aux gens, je vais être là au moins pour le 100 épisodes, quoi. Et voilà, c'était aussi pour mettre moi la pression par rapport à ça. Donc ouais, je voulais vraiment faire ça de façon structurée, même si la monétisation, je l'avais pas encore tout à fait cernée.
Comment as-tu fait pour faire connaître ton podcast au démarrage? Est-ce que tu avais déjà une audience ailleurs, tu vois? Parce que moi, par exemple, j'avais déjà un site, j'avais déjà un compte Insta. Et je me dis qu'il y a des gens qui démarrent vraiment de zéro avec le podcast. Et je trouve que c'est plus challengeant en termes de découvrabilité, du coup, de se rendre visible.
Ouais, non, moi, j'ai vraiment commencé que avec le podcast, en fait. Et même aujourd'hui, je pense que j'ai plus de gens qui me connaissent du podcast que d'autres choses. C'est vraiment par là que j'ai commencé vraiment de zéro, à partir de liens que je tissais au gré des invités, des gens que je connaissais de manière professionnelle, parce qu'avant j'étais analyste financier, donc j'avais, et d'ailleurs j'ai fait pendant un an et demi ce podcast en parallèle de ce boulot où j'étais en CDI. Mmh. Et finalement j'ai un peu plus utilisé les compétences de en tant qu'analyste financier. J'allais voir des patrons de grosses entreprises et genre je les interrogeais, si tu veux.
Ouais,
donc, cette partie là c'est un petit peu, ça m'a aidé dans le développement des interviews avec des personnes qui, certains c'était des investisseurs un peu particulier, mais certains c'était des patrons d'entreprise, etc. Donc je pense que ça m'a un peu aidé pour ça aussi, quoi.
Et t'as utilisé les réseaux sociaux ou bien plus tard?
J'ai utilisé Instagram, mais en même temps, si tu veux, mais vraiment pas, comment dire, oui, j'ai utilisé qu'Instagram, mais pas de manière forcément...
Au minimum, tu, ouais, veux dire que tu mettais en gros une publication à chaque nouvel épisode?
C'est ça.
Voilà, ouais, c'est ça.
Ouais, carrément.
Écoute, je pense que tu vas rassurer plein de gens aujourd'hui. Dans le fait de dire que c'est pas indispensable d'avoir déjà une présence et en plus d'être continuellement sur les réseaux sociaux pour faire grandir son podcast, je pense que tu vas aider plein de gens à relativiser sur le sujet, ouais, parce que pour plein de gens c'est une contrainte, tu vois. Et donc le fait de me montrer que c'est possible, je trouve que c'est un super message.
Ouais, ben non, mais pour être tout à fait honnête, c'est des questions que je me pose toujours, hein, tu vois, après dans le développement, tu vois, les réseaux sociaux, est-ce que ça aide, est-ce que ça aide,
oui,
pas, le ratio en fait aussi entre le temps que tu y passes, l'énergie que tu y mets et ce que tu y gagnes. Mais pour, en tout cas, mon parcours depuis 2 ans, de là où je suis arrivé aujourd'hui, enfin quand j'ai commencé aujourd'hui, c'est clair que c'est pas Instagram qui m'a fait vraiment découvrir, c'est plus vraiment le podcast,
ouais.
Et je pense que c'est justement le côté la régularité qui a fait peut-être du podcast quelque chose d'un peu différent, dans le sens où j'ai vraiment pas arrêté, si tu veux, depuis le début à poster,
ouais,
un épisode par semaine. Il n'y a jamais eu de raté, et je pense que, enfin, moi je le vois comme ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué de jauger aussi les personnes qui est de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle apprécie dans le podcast.
Oui.
Mais moi, en tant que consommateur de podcast, en tant qu'auditeur, je sais que j'apprécie de savoir que la personne qui est là, elle est là pour moi, tu vois, quelque part. Elle met les efforts, elle me donne de la visibilité, elle me dit est-ce que je vais entendre. Et je le vois aussi, enfin, j'ai l'impression que ça m'a pas mal aidé de ce point de vue-là aussi. Mais non, les réseaux en tant que tels, c'est plus en accompagnement pour publier un petit peu, etc., mais qu'autre chose.
Ouais. Et c'est bien que tu parles de régularité, parce que du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton organisation. Moi, je n'ai pas réussi à tenir toutes les semaines depuis que j'ai lancé le podcast, j'ai eu des ratés. Donc du coup, je serais curieuse de savoir comment tu t'organises, finalement, combien de semaines tu as de l'avance en termes d'épisodes, tu vois, comment tu vois un peu les choses?
Ouais, ben c'est vrai que c'est un peu un challenge, ça, de pouvoir toujours avoir des épisodes de qualité chaque semaine. Déjà, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression sur la qualité, justement, parce que l'intéressant quand tu commences vraiment de zéro aussi, c'est que tu peux faire des épisodes moyens et puis des épisodes bien après,
ouais,
et puis après des épisodes un peu moins bien. il y a un peu un exercice aussi de savoir pas être trop perfectionniste avec soi-même, pas être trop dur avec soi-même et se dire que on a fait de son mieux par rapport à une idée qu'on a eue et on va jusqu'au bout et on la publie, tu vois. J'ai jamais eu des épisodes que j'ai pas publiés en me disant « ouais, non, il est pas assez bon », même s'il y a des épisodes que j'ai pensé qui étaient peut-être moins bien que d'autres. Mais la façon dont je vois le podcast, si tu veux aussi, c'est que c'est plus un rendez-vous. Et voilà, au rendez-vous, voilà ce que je te donne, toi, auditeur. Je mets le maximum et voilà ce que j'ai pensé. Et, voilà. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais quelque part, c'est une façon de documenter. Sinon, c'est un peu trahir le processus, tu vois, de documentation.
Oui, et c'est vrai.
Je vois plus un peu cette œuvre, si tu veux. Je suis pas un artiste, mais tu vois plus sur la durée. C'est-à-dire, c'est pas un épisode qui va définir ton podcast. C'est vraiment l'ensemble, en fait, du cheminant de pensée que tu as eu à certains moments qui vont faire que ça définir le podcast. Et après, en termes plus... plus technique, bah au début je faisais vraiment tout seul, donc j'en avais pour se passer trois jours dans la semaine pour un épisode. Et là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir deux personnes, donc on est trois, donc deux personnes dans mon équipe qui m'aident. Alors j'ai un ingénieur du son qui s'occupe de la partie vraiment son, c'est-à-dire qualité pure de l'audio, parce que j'enregistre tout en fait à distance, donc c'est le son est forcément il faut le travailler un peu de temps en temps pour que ça soit bien. Ouais. Et puis après j'ai une personne qui s'occupe plus de la partie éditoriale, c'est-à-dire m'aider pour organiser un peu les idées de tout ce qui s'est dit dans l'interview pour que je puisse après moi construire une intro, parce que je fais toujours une intro au début pour préparer un petit peu l'éditeur à ce qu'il va écouter et après diffuser, tu vois, tout ce qui est copywriting et poster sur tous les réseaux, etc. Donc j'ai une personne qui m'aide pour ça également. Et d'ailleurs, elle me donne aussi du retour sur la qualité des épisodes, parce que en fait, c'était un auditeur fidèle du podcast qui est venu vers moi un jour et qui m'a dit « c'est vraiment trop cool, est-ce que tu as besoin d'aide ? J'ai envie de m'associer à ce projet-là. » Et donc, c'est royal, parce que du coup,
il te connaît, il connaît complètement du coup ton travail, ce que tu as envie de transmettre et tout, ouais.
Ouais, non, ça c'est bien. Et du coup, aujourd'hui, tout compris, je dois passer quand même... tout compris, ça doit quand même me prendre deux jours par semaine. Ça inclut vraiment, tu vois, recherche d'invités, préparation de l'interview, un peu valider aussi les choix derrière. Donc c'est quand même du taf, quoi.
Ouais, je me doute. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu n'étais pas spécialement satisfait de l'interview, tu trouvais que ton invité n'avait pas assez creusé, que c'était assez superficiel, etc.?
Ah ben ça, il y en a plein.
Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Tu fais avec ce que t'as?
Ouais, je fais ce que j'ai. Alors moi, ma technique, c'est je value vraiment je donne beaucoup de valeur. J'estime beaucoup la valeur du temps des auditeurs. Et donc, si un épisode il a peu de choses, en fait, je vais le raccourcir. Je vais vraiment concentrer le maximum. Tu vois, si c'est un épisode qui doit faire 40 minutes, il fera 40 minutes, mais ça sera plus concentré que des longueurs, etc. Tu vois. Donc c'est un peu un truc que j'utilise quand vraiment j'ai pas eu ce que je voulais, mais bon, de manière générale, j'ai quand même au moins 60-80%, tu vois, de ce que je voulais avoir.
Ouais.
Après, il y a une autre technique aussi de trappeur qui est que je prépare aussi, tu vois, dans le même esprit, je prépare l'auditeur à ce qu'il va écouter. Dans chaque intro, en fait, je survends jamais ce qu'il va écouter, tu vois. Je lui dis, voilà, là, tu vas peut-être pas parler, on va pas parler de ça, mais on va parler de ça et ça. Et tu sais, voilà, bon, au moins tu sais où tu vas. Donc c'est comme ça que j'arrive, si tu veux, même quand il y a des interviews qui sont un peu moins bonnes par rapport à ce que j'avais pensé, j'arrive quand même à les rendre écoutables, quoi.
Ça, c'est effectivement un bon conseil pour les podcasteurs qui nous écoutent, c'est qu'il y a toujours moyen de tirer profit d'un échange, même si on n'est pas 100% satisfait du résultat. Il y a toujours moyen d'en tirer quelque chose et du coup de le transmettre à nos auditeurs. Alors, tu as fédéré une belle communauté autour de ton podcast. Tu as notamment un groupe Facebook, j'imagine, qui regroupe des abonnés, qui a plus de 400 personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fonctionné selon toi et qui t'a permis de rassembler les gens? Parce que je sais que c'est pas... Il y a des gens qui le font assez naturellement. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu compliqué, parce que c'est une audience et une communauté, c'est pas pareil, tu vois. Avoir une audience, avoir des écoutes, etc. sur un podcast, c'est bien. Mais avoir une communauté de gens qui te donnent des feedbacks, qui te soutiennent, qui viennent te proposer de t'aider, tu vois, comme l'a fait, du coup, la personne qui t'aide sur l'aspect éditorial, et ben c'est aussi du luxe, tu vois, je trouve.
Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense pas que... Ouais, je pensais que là-dessus, je vais peut-être un peu te décevoir, mais j'ai pas forcément mis, je pense, beaucoup d'action là-dessus, sur vraiment la communauté, parce que j'ai pas eu trop le temps, en fait, vraiment de me porter là-dessus. Ma façon, moi, plutôt vraiment de fédérer, c'est vraiment juste d'être, d'être moi-même. Et encore une fois, dans mes épisodes, dans la construction de ces épisodes, j'essaie vraiment de faire en sorte que les gens, au fil des épisodes, en fait, ils puissent comprendre et tu vois, ma façon de penser, etc. Et de fait, du coup, les retours que j'ai des gens sont déjà, si tu veux, en ligne avec ma façon de penser parce qu'ils savent qui je suis finalement. Et il n'y a pas besoin forcément de faire une grosse intro ou dire faites pas ci, fais pas ça. Ou tu vois, on est dans la bienveillance ici parce que voilà, il est toujours été. Et du coup, ça filtre, si tu veux, la façon dont je prépare les podcasts. Je pense que ça filtre aussi les gens qui sont intéressés ou pas pour le type de contenu, tu vois, parce qu'en finance perso ou investissement, tu vois, t'as plein d'influenceurs qui sont même beaucoup plus gros que moi, qui ont peut-être qui sont beaucoup plus attrayants pour certains types d'audience, tu vois, typiquement bah voilà, si tu vois, gagner de l'argent rapidement, tu vois, de façon agressive, et qui peut être bien aussi, tu vois, mais c'est vraiment une clientèle différente. Peut-être que les gens qui sont comme ça, bah, préfèrent un type d'influenceur. Et puis les gens qui écoutent mon podcast sont peut-être plus sur du long terme ou essayer d'être réfléchi ou diversifié, parce que je parle aussi pas mal d'organisation, parentalité et tout. Donc en fait, dans les épisodes et dans la ligne que tu prends éditoriale, je pense que rien que ça, en fait, ça filtre, si tu veux, des sous-catégories de personnes qui vont plus ou plus te ressembler toi, et qui est largement plus important que ce que tu t'imagines d'ailleurs, en fait.
Mais du coup, je trouve que tu fais aussi l'effort de conserver un lien avec les gens et que tu es vraiment dans l'interaction, pour le coup, avec tes auditeurs. J'ai notamment vu que tu faisais un live tous les lundis soirs, finalement, sur ta chaîne YouTube, que ensuite tu rediffusais en audio sur ton podcast. En fait, c'est un moment où tu vas interagir avec les gens. Est-ce qu'on te pose des questions? Tu vois, comment tu as imaginé cet aspect-là?
Ouais, bah justement, en fait, j'ai lancé la chaîne donc en décembre l'année dernière, justement dans l'optique de créer de l'interactivité, parce que le podcast, c'est vraiment un truc qui manque dans le podcast, c'est le côté...
Ouais, c'est à sens unique.
Ouais, c'est vraiment à sens unique. Tu offres un produit, t'espères que ça plaît. Tu peux toujours quand même interagir avant, c'est-à-dire tu peux prévenir les gens, voilà, je vais inviter un tel. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est quelque chose que je fais aussi. Mais donner la possibilité vraiment en live de pouvoir interagir et avec moi et avec les invités, parce que de plus en plus, en fait, j'invite aussi des personnes des fois des anciens invités du podcast. Bah, ça apporte vraiment quelque chose d'interactif, quoi.
Clairement, je pense qu'en tant qu'auditeur, du coup, tu te sens entre guillemets davantage considéré parce que tu as encore plus de contenu, puis tu as la possibilité de soumettre des choses de manière assez directe, d'avoir des réponses à tes questions. Je trouve que ça a une véritable plus-value.
Franchement, ouais, et je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup, que les gens prennent pas finalement cette offre. Enfin, je trouve qu'il devrait y avoir plus de gens qui bénéficient de ce genre de truc. Après, moi, je fais un live le lundi à 20h30, donc c'est aussi, il faut avoir le temps de pouvoir y être. Mais par exemple, je propose aux gens de poser des questions, n'importe lesquelles, sur un lien depuis mon site. Et il y a assez peu de gens qui font tu vois, la démarche de poser la question. Mais bon, après, c'est comme je te dis, c'est une tentative, quoi.
Ouais, il y a des gens qui sont un peu timides. Après, il y a aussi toi, est-ce que t'en parles suffisamment, tu vois? On a toujours l'impression que tout le monde est au courant, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui nous découvrent et qui savent pas du tout que ça existe. En tout cas, je trouve que c'est pas très longtemps que tu le fais, et d'autant plus, je trouve que c'est super, tu vois, d'avoir lancé un projet comme ça. Et je pense que petit à petit, naturellement, la notoriété de cet atelier du lundi va commencer à grandir, quoi.
Bah, c'est exactement ce que je pense aussi, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et comme pour le podcast, en fait, c'est un nouveau format. Et le podcast au démarrage, c'est pareil. Ça prend vraiment du temps avant que les gens commencent à intégrer qu'il y a ce truc-là. Et donc, je me fais pas trop de soucis.
Alors, en termes...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
D'actifs, entre guillemets, autour de ton podcast. Tu as un compte Instagram, tu as la chaîne YouTube, tu as un groupe Facebook. Est-ce que tu as une liste email? La newsletter?
Ouais, j'ai une newsletter aussi, une liste email. J'ai un groupe sur LinkedIn également.
Ok. Et du coup, c'est quoi la place de la newsletter? C'est pour annoncer les nouveaux épisodes ou ça va peut-être un peu plus loin?
Eh ben ouais, j'ai justement dans cette réflexion-là, justement, ça vient, pour tout te dire. actuellement, en fait, moi, ma démarche, là, c'est plutôt d'y aller step by step. Donc, au démarrage, ouais. C'est plutôt vraiment présenter l'épisode et présenter aussi les enseignements de ces épisodes que j'ai eus, tu vois. Voilà ce que j'ai appris. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pas forcément sur le podcast. Donc, c'est un petit peu la valeur ajoutée en plus qui permet à l'auditeur de comprendre les trucs que j'ai trouvé intéressants, peut-être. Un peu mon point de vue parce que, en général, je suis un peu plus en retrait quand j'interviewe les gens. En tout cas, à part la ligne de questionnement, tu vois, je ne donne pas forcément mon opinion tout le temps. Donc, la newsletter permet un petit peu de faire ce rôle-là dans les coulisses, de déjà marketer l'épisode, dire qu'il est sorti et donner aux gens un peu mon point de vue. Et puis après, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se ramifier autour de ça. À mesure que j'ai des retours aussi sur la newsletter, parce que j'ai un peu cette impression, et tu vois, je fais un peu des tests, tu vois, YouTube, la newsletter, les réseaux sociaux, je fais des expérimentations en fait un petit peu sur chacune de ces plateformes. Mes premières réflexions, ou du moins les premiers résultats que j'ai, c'est que j'ai l'impression que c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes audiences en fait. Les gens qui sont sur, ouais, YouTube, ils vont que sur YouTube. Les gens qui m'écoutent sur le podcast, ils m'écoutent que sur le podcast. Et c'est un peu la même chose entre Instagram et la newsletter. Et donc, je m'adresse à des gens différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi de comprendre à qui sont ces gens, tu vois, en fonction de leur comment ils utilisent chaque plateforme. Et du coup, est-ce que le ton peut être différent entre toutes ces plateformes? Ça, j'avoue que ça me rend un peu étourdi de penser à tout ça. Je pense que je vais plutôt garder un ton pour tous, mais
voilà. Ouais, je pense que c'est plus simple. Je suis d'accord, surtout. Enfin, je suis aussi dans ce cas de figure, tu vois. Il y a des réseaux sociaux, il y a la chaîne YouTube, il y a la newsletter, et comme toi, je me dis qu'en fait, si je commence à vouloir accorder trop de détails à chacune des plateformes, je vais doubler ma charge de travail. Et le plus important, c'est vraiment, je pense que je reste fidèle à moi-même. Je pense que t'es d'accord là-dessus, et que le contenu soit là assez régulièrement pour pas que les gens oublient, quoi.
Ouais, carrément. Mais en termes de newsletter, j'ai clairement des trucs à apprendre, tu vois. Quand je vois tes séquences mail et tout ça, je sais que...
Chaque chose en son temps.
C'est ouais. Ça, ouais, carrément.
Alors, parlons visibilité, parce que ton podcast sur l'investissement est deuxième de sa catégorie du côté d'Apple. Je ne sais pas, il t'a regardé du côté de ListenNote ou Chartable, mais je trouve que c'est déjà un excellent indicateur. Et surtout, ce qui est intéressant avec ton podcast, c'est qu'il est bien classé, mais régulièrement. Tu vois, ce n'est pas un pic à un certain moment donné, et ensuite ça redescend, etc. C'est que tu es vraiment là assez régulièrement, ce qui montre que les gens aussi sont au rendez-vous. Qu'est-ce qui, selon toi, joue pour avoir un aussi bon classement?
Là, franchement, on va être que dans l'interprétation, hein, parce que moi, j'ai aucune idée, ouais. Tu vois, vraiment, enfin, c'est assez obscur.
Ça donnera quelques pistes.
Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est la régularité des épisodes, ouais. Et je pense que c'est aussi la régularité des avis sur Apple Podcast, notamment. Quand, en fait, Apple, la plateforme voit des avis récurrents, qui continuent, en fait, ils continuent de considérer que les gens apprécient le contenu, et donc ils te le mettent, ça augmente dans les classements. J'ai eu, en fait, au tout début, j'avais donc mon podcast en termes de classement, je regarde pas tout le temps, mais je sais qu'au, ouais, tout début, il y a eu un pic. Alors c'était au mois d'août, je crois, de 2000, l'année suivante, 2021, il y a eu un gros pic d'audience. Et en fait, je sais pas, alors j'ai eu un invité ou deux qui était assez influent, mais je pense que c'est aussi que le mois d'août, personne produisait des podcasts frais, ouais, frais, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai jamais arrêté, même pendant l'été, tu vois, j'ai publié du frais. Et du coup, à ce moment-là, ça a vraiment fait pop, si tu veux. Et il y a un gros pic, et je suis monté tout de suite dans les classements au top 10, tu vois. Et après, le, d'accord, fait d'avoir régulièrement des avis, parce que du coup, il a été sélectionné, pardon, pour compléter là-dessus, il a été sélectionné par Apple, tu sais, qu'ils te mettent pendant un mois, ils mettent ton podcast dans les sélections.
Ouais, c'est cool ça, félicitations. Ouais. Ça devait être une belle victoire pour toi.
Ah ouais, ça clairement fait la différence, quoi. J'ai senti vraiment le truc, j'ai tout de suite plus de messages, tout de suite, ouais, vraiment les gens ils se disent, ah au fait t'existes, quoi, tu vois. Ça fait... Et après, il n'y a plus vraiment cet effet boom. Mais par contre, il n'y a pas eu non plus de gros drop, quoi. Je suis resté toujours plus ou moins dans ces mêmes eaux-là, quoi. Et je pense que c'est lié, encore une fois, à la régularité et à la régularité des avis qui arrivaient, quoi.
Comme quoi, il n'y a pas de secret, hein. C'est vraiment du travail, tu persistes même quand tu as l'impression que ça avance pas ou que ça évolue pas trop. Et puis un jour, tu as un petit coup de pouce de n'importe où et puis après, ça t'aide à créer un effet boule de neige. Mais effectivement, ce côté persévérance et le fait qu'un podcast ne se soit pas viral et qu'il n'y ait pas de recette miracle, je trouve que c'est bien de le réentendre aussi, tu vois.
Ouais, non, complètement. Tu ne sauras jamais ou tu ne pourras jamais me donner toi-même l'événement qui fera que ton podcast il va monter. Tu ne sauras jamais quand ça va booster, en fait. Il y a un moment donné où les efforts que tu auras mis, capitalisés sur les mois derniers, ils vont payer, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, clairement.
Écoute, ça fait plaisir à entendre. Est-ce que tu es OK pour dire le nombre d'écoutes que tu fais par mois ?
Ouais, bien sûr. Là, je l'ai dépassé les 100 000 écoutes aux dernières nouvelles.
Bravo, c'est énorme. Bravo, déjà, avant de poursuivre. Tu vis ton podcast aujourd'hui pleinement ?
Non, en fait, pas vraiment, en fait. J'ai commencé à monétiser.
D'accord.
Mais j'ai deux activités aujourd'hui. Donc, c'est l'activité investissement immobilier. Donc, je fais de l'achat-revente en immobilier et le podcast.
Ok. Mais du coup, c'est bien. Je trouve que c'est bien de varier les sources de revenus pour le coup. Tu le monétises par le sponsoring, ton podcast, c'est ça ?
Ouais, essentiellement, ouais. Enfin, oui, complètement même, d'ailleurs. Ouais.
Et du coup, c'est à quel moment tu t'es dit, OK, il est temps de monétiser ? Et puis, ça a été quoi ton plan d'action pour trouver des sponsors ?
Alors, au démarrage, j'ai eu un invité qui a apprécié vraiment le podcast et qui aimait bien vraiment le format et se sentait, sentait que l'image que je donnais du podcast pouvait vraiment coller à l'image de cette société. Et donc, il s'est proposé d'être mon sponsor, en fait, pendant une année, finalement. Enfin, c'était pas un contrat d'un an, hein, on a commencé et puis ça a duré finalement une année. Ouais, donc ça, c'était vraiment bien. Ça m'a permis de mettre de côté aussi pendant ces années-là, 2000... Enfin, j'avais pas autant d'écoute non plus, hein, mais...
Ouais, mais je trouve que c'est un bon moyen, tu vois, de commencer. Parce qu'au final, c'est une personne avec qui tu as déjà échangé, et puis ça s'est fait assez naturellement. Donc, t'as pas eu de stress en soi de te dire, il faut que je trouve un sponsor, il faut que je dise les bons mots dans mon mail, etc. C'est que ça s'est fait finalement assez simplement, quoi.
Complètement, ouais. Un partenariat vraiment de... On se comprenait. Bah, j'étais client aussi de ces sociétés, donc ça aidait. Ouais. Et puis, on s'est vraiment bien entendu avec le dirigeant, et donc j'ai un peu connu une lune de miel, si tu veux, sur le côté sponsoring pendant une bonne année, avant finalement, en fait, on avait épuisé un petit peu quand même le mécanisme, il n'y avait plus autant de retours qu'au début avec lui. Donc quand ça s'est arrêté, c'est là que je me retrouvais dans le grand bain, si tu veux, à vouloir compenser, trouver un sponsor moi-même, et c'est là que j'ai compris... qu'en fait j'avais eu un peu de chance, mais que quand tu vas aller chercher, notamment si tu vas chercher un sponsor par mois et qu'il faut chaque mois faire un nouveau contrat, c'est super chaud, quoi.
Ouais, clairement.
Donc j'avais trouvé un deuxième après, mais ça a pris plus de temps et puis c'était un peu un truc test, genre sur un mois, et puis c'était un peu moins payé. Mais pareil, j'ai dû faire, tu vois, un media kit avec toutes les audiences, qui je suis, le message, les écoutes, etc. Un truc vraiment pro. Qui m'a permis de sécuriser ce contrat-là, mais voilà, c'était qu'un mois. Et ensuite, j'ai intégré Acast, qui fait également, tu sais, de la régie pub également pour les podcasts, mais on n'a pas trouvé de sponsor qui était forcément qui était assez bien ciblé par rapport à l'offre du podcast. Ouais. Et puis après, j'ai eu la chance de découvrir Orso Media, qui eux sont plus justement sur le segment du podcast que j'anime, vraiment développement personnel, business, finance perso, et donc qui ont plus de visibilité vis-à-vis des sponsors, etc. Donc j'ai commencé que depuis cette année, c'est tout frais, ça fait 2 mois.
Ok, je savais pas que tu avais rejoint le label. Effectivement, je trouve que eux sont pour moi leaders dans la monétisation des podcasters, puisqu'ils ont effectivement un super réseau de partenaires qui semblent pour le coup assez... Enfin, à chaque fois, c'est des grands noms de marques, quoi.
Ouais, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Alors, on n'a pas encore complètement finalisé, puisque je viens juste de rentrer, mais si tu veux, ouais, j'ai vraiment un bon feeling de l'expérience des podcasteurs, des créateurs qui sont là-bas, du courant d'affaires qu'il y a là-bas. Enfin, ouais, j'ai eu vraiment un bon feeling et je pense que ça va être pas mal. Et puis surtout, sur le côté du coup opérationnel, j'ai plus besoin d'aller chercher avec les dents le sponsor, tu vois, chaque mois, quoi.
C'est vrai. Est-ce que tu te souviens combien tu facturais, parce que c'est un sujet qui est assez flou, pour le coup. Est-ce que tu as une fourchette à peu près, je sais pas, ton dernier partenariat d'il y a quelques mois, pour avoir une idée?
Ouais, c'était à peu près, c'est à peu près à 80 euros pour 1000.
Ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a pas mal de gens qui créent des packages, tu vois, et qui du coup mettent dedans une mention dans la newsletter, éventuellement sur le site ou sur un truc Instagram. Et je trouve qu'effectivement, en tout cas, quand tu as un petit podcast, bah, c'est une façon intéressante d'augmenter un peu la facture et du coup de rentabiliser une collaboration.
Ouais, complètement. Moi, je le jouerais même plus en disant que facialement demander un CPM, donc un coût pour 1000 plus élevé, en contrepartie, ouais, tu vois, de plus de services et de, tu vois, une mise en relation sur la newsletter, des apparitions partout sur plusieurs plateformes, plutôt que de facturer chaque service séparément. J'utiliserais plus ça comme argument pour négocier un prix pour 1000 peut-être plus élevé que ce qui se fait, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Après, les gens sont pas, enfin, moi, pour y être allé justement en solo, il y a peu de sponsors qui sont quand même, on va dire, encore réactifs, ou pas réactifs, mais qui sont réceptifs à l'offre podcast, même si, tu vois, on dit que le podcast, c'est le nouveau média, etc. et tout, mais en fait, quand il faut financer et commencer à lâcher une campagne de pub, en fait, les gens, ils sont en mode, c'est quoi mon retour sur investissement maintenant, tu vois. Il n'y a pas cette notion de je m'associe à un moyen terme parce que je sais que le créateur, il a les mêmes valeurs que moi, etc. On est encore sur du, bon, je voudrais faire un test sur un mois, combien c'est? Oh là là, mais c'est cher, là, sur la radio, c'est ça, tu vois, qui compare la radio avec le podcast, enfin, c'est encore compliqué, quoi.
Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce que tu as déjà pensé à proposer, je sais pas, d'autres services, genre du consulting en finance ou créer une formation ou je sais pas, tu vois, c'est un peu ce que font la plupart des podcasteurs entrepreneurs pour avoir une source de revenus qui soit un peu plus directe. Est-ce que toi, ça t'a traversé l'esprit ou est-ce qu'au contraire, tu t'es jamais dit c'est un truc que j'ai envie de faire, quoi?
Bah si, Safia, évidemment, mais le temps me manque et je sais que j'ai l'impression que je laisse de l'argent sur la table, hein, comme on dit. Et si j'avais le double de mes journées, je pense que je pourrais complètement, enfin d'ailleurs c'est pas vraiment une excuse, hein, mais je pense qu'il y a moyen effectivement de monétiser, de créer une autre source de revenus. Alors c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, mais je me sens pas forcément légitime pour tout encore tout de suite, et notamment tu vois, pour être conseiller financier ou autre, je me vois pas encore, d'ailleurs, enfin, c'est pas un truc sur lequel je me sens vraiment à fond légitime tout de suite, même si voilà, j'ai des connaissances évidemment. Mais après, si je trouve quelque chose sur lequel vraiment je me sens à l'aise, alors pas forcément en tant qu'expert, mais expert et apprenant, hein, ce qui est toujours un peu la démarche, et où je puisse apporter de la valeur, au moins faire avancer les gens qui sont peut-être un peu en dessous de moi dans leur parcours, ben voilà, il faut juste que je construise l'offre, effectivement.
Je suis sûre qu'il y a des gens dans ton audience qui adoreraient travailler avec toi, tu vois, sur certains aspects, et qui te choisiraient parce que c'est toi, tu vois. Mais bon, je ne vais pas te pousser dans une direction en particulier.
Ah ouais, je sais.
C'est quoi ton objectif, on va dire, avec ton podcast sur cette année 2023? Ou tes projets, tes ambitions? Pas forcément des objectifs, mais est-ce que tu as en tête?
Là, j'aimerais bien consolider, tu vois. Là, j'ai quand même fait une grosse augmentation en termes d'écoute. En termes de production, ça commence vraiment à être un peu vraiment cadré et je peux y passer moins de temps que possible, même si je me suis collé un live toutes les semaines sur YouTube. Ouais. Mais justement, je pense que cette année, et puis enfin le focus, ça va être justement de digérer ça, de faire en sorte que le podcast tourne à la même qualité, à la même efficacité, et que j'y mette pas plus de moyens, tu vois. Et que j'ai pas à y passer non plus trop de semaines, tu vois, dessus, toute la semaine dessus. Vraiment en termes d'organisation, que ça soit le plus fluide possible, tout en gardant le niveau de qualité que j'ai réussi à avoir jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est plutôt ça, plutôt que de dire voilà, je vais taper les 150 000 écoutes, quoi. Parce que en fait, c'est personnel, mais moi je sais que je peux pas mettre l'effort partout à la fois, et je peux vite être frustré si je me dis il faut que je sois plus efficace, faut pas que je passe trop de bon temps, mais il faut que je sois visible, il faut que je décolle en termes de, tu vois, de nombre et tout ça, et en fait ça va me bloquer, je vais arrêter complètement. Donc je préfère viser sur les trucs sur lesquels j'ai un impact. Et les trucs sur lesquels j'ai un impact, c'est trouver les invités, interviewer les gens, faire que ça soit fluide en termes de process. et je me dis un petit peu que le reste va venir, quoi.
Ouais, je te rejoins aussi sur la simplicité des choses et que le focus doit vraiment être là-dessus. Par répercussion, il y aura forcément des évolutions plus tard, quoi.
Ouais, ça peut marcher, ça peut pas marcher, mais comme on disait au début, même si ça marche pas, tu auras... Enfin, le fait d'avoir un produit de qualité, et puis moi d'apprendre aussi avec les invités, c'est aussi un truc que je garde toujours à l'arrière de ma tête dans ce que je fais, c'est que je veux toujours qu'il y ait le fun qui soit là, tu vois. Donc, par exemple, l'idée de... Et de plus en plus, en fait, j'ai des demandes de personnes qui veulent passer sur le podcast, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc aussi que j'ai dû un peu me faire violence, parce que quand tu acceptes une invitation de quelqu'un parce qu'il est sympa ou parce que peut-être que ça pourrait être, finalement, ça pourrait être pas mal, tu vois, mais que t'as un peu un doute, j'ai compris que 99% des cas, c'était un truc sur lequel... après, moi, je faisais un épisode, mais j'étais pas forcément à fond. Et quand tu perds l'envie, là, c'est chaud de déployer tout le reste des trucs à faire, quoi.
C'est vrai. Mais écoute, je te le souhaite, en tout cas, d'atteindre tout ça et de réussir à tout gérer comme un chef. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager un peu les coulisses de ton podcast avec moi. On peut te retrouver, du coup, sur ton podcast Les Investisseurs 4.0. Où est-ce que tu veux que les gens aussi puissent aller te retrouver, peut-être pour te faire un feedback sur l'épisode ou en savoir plus, finalement, sur ton contenu?
Essentiellement, c'est avec plaisir. Essentiellement, c'est Instagram et sur LinkedIn également, les deux principaux canaux, en fait, ouais.
Mais ce sera dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Paco.
Merci, Safia. J'ai hâte de voir ces nouveaux podcasts sortir.
Tu mets la pression.
Un petit peu, tu pourras le couper.
Merci beaucoup, salut.
Merci à toi, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.